il est 20h, Sofres au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Cinquième président de la Ve République. Jacques Chirac, 50%.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Moi, président de la République, 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 moi, président de la République.
Et non, il n'est pas 20h, mais 20h30, et vous écoutez Tous Politiques, l'émission politique de Transistor. Je suis ce soir en compagnie de Marie, de Maëlys, de Pierre et de Rémi. Bonsoir à vous quatre.
Bonsoir Mathias.
Bonsoir Mathias.
Contrairement à l'émission précédente, nous sommes beaucoup ce soir sur ce plateau pour analyser l'actualité politique de ces derniers jours et partager nos humeurs et parfois nos traits d'humour quant à cette élection présidentielle qui ne semble pas vouloir en finir. Sans plus tarder, je me tourne vers Marie qui ouvre cette émission. Chers auditeurs, vous la connaissez pour ses revues de presse dans le journal radiophonique Amplifié, un jeudi sur deux. Mais ce soir, cette grande lectrice du Figaro ne se contente pas de lire et de commenter la presse, mais elle nous livre sa chronique. Bonsoir Marie, de quoi vas-tu nous parler ?
Eh bien, bonsoir Mathias, et je vais vous parler de la résistible attraction d'Emmanuel Macron.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors, je commence avec une question pour vous autour du plateau. Est-ce que vous avez un macroniste dans votre entourage ? Là, comme ça, spontanément, au débeauté. Peut-être êtes-vous un macroniste ?
Je suis diaboli dernier.
Alors, non, je n'en connais pas, désolé.
Non, tu n'en connais pas personnellement. Alors moi, quand je dis macroniste, je ne pense pas aux gens qui pensent voter Macron. Je connais des gens très bien qui envisagent de mettre un bulletin Macron dans l'urne le 23 avril. Non, je pense plutôt aux gens qui militent carrément pour Macron, qui suivent ses meetings, qui relaient ses publications Facebook, voire scandale, les gens qui adhèrent franchement à En Marche. Eh bien oui, moi j'en connais. Bon, laissez-moi vous raconter une petite histoire. J'ai un ami qui, il y a un an, se disait Front de Gauche. Appelons-le Sylvestre. Sylvestre bitchait très très fort sur le Parti Socialiste à l'époque. Aujourd'hui, Sylvestre est macroniste. Il était même macroniste avant que Macron ait un programme, ce qui revient quand même à être un sacré fanboy de base. Finalement, voilà Sylvestre dans le QG de campagne d'En Marche, et voilà mon fil d'actualité Facebook tout flodé de vidéos de Macron. Heureusement qu'on peut bloquer les publications de ses amis Facebook. Alors voilà, voilà, c'est un drame. Bon, je me suis longuement demandé ce qui était arrivé à Sylvestre. Puis finalement, j'en suis venue à la conclusion suivante. Sylvestre est ambitieux. Sylvestre a fait Sciences Po. Sylvestre veut faire carrière en politique. Une carrière, si possible, longue. Donc Sylvestre a fini par aller là où le vent le portait. Et surtout, là où le vent le portera. Et ça, ça interroge quand même. Bordel, qu'est-ce qui a convaincu tous les rastignacs de notre siècle que l'avenir, c'était Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qui les a convaincus de parier leur avenir sur le cheval libéral de l'écurie Hénard Rothschild, ministère de l'économie ? Eh bien ça, ça n'est pas si facile à expliquer, mais j'ai tout de même quelques pistes. Alors, explication numéro 1, Macron, c'est un nouveau gladiateur dans l'arène, et ça, ça divertit les gens, ça donne envie de prendre les paris. C'est peut-être plus facile à assumer que de se tourner vers... Non, c'est peut-être plus facile à assumer de se tourner vers un homme presque neuf, qui n'est pas encore de passé, ni de passif derrière lui. Macron, il est jeune, on n'était pas tant que ça habitué à voir sa tronche dans la vie politique française, au contraire de Bayrou par exemple. Il appartient pas au grand parti traditionnel. Et en quelques mois, le mec a bricolé une exfiltration hors du PS, un droit à l'oubli de son passé comme ministre, un parti plus ou moins sérieux et même une candidature.
Et pas son passé communiste, Marie.
Non, n'est-ce pas ? Alors il fait un peu jeune cadre dynamique, il écrit un bouquin pas révolutionnaire mais intitulé Révolution, et il hurle dans tous ses discours. Admettons que ça ait donné une coloration fraîche et sexy à cette candidature. Admettons. Explication numéro 2. Les macronistes croient que les faits se sont penchés sur le berceau du divin champion. Enfin, les faits médiatiques et sondagières, je veux dire. Il y a cette blague qui dit que depuis le 16 novembre, Macron, c'est une couverture de l'Obs sur deux. Alors je suis allée vérifier. Non, c'est plutôt 2,5 sur 17 numéros, on relativise. Mais c'est toujours plus que Hamon, par exemple, mis en couverture 1,5 sur 17. Alors c'est vrai que les médias font beaucoup de publicité à Macron avec ce truc récurrent. Ils mettent sa tronche absolument partout, même là où il faut pas. C'est-à-dire que quand ils font une couverture sur la gauche, avec un grand G, eh ben ils mettent Macron aussi. Comme si c'était un candidat de gauche comme les autres. Merci Rémi d'avoir essayé de m'assassiner. Outre les médias, les sondages donnent plus ou moins 20-25% d'intention de vote pour Macron actuellement. C'est sûr que ça donne de quoi espérer des bons résultats et un début de carrière politique quand on est un jeune loup. Le problème, c'est que les sondages en question extrapolent la réalité de 2017 à partir d'un passé qui ne correspond pas tout à fait. Je m'explique, pour faire un sondage, il faut un échantillon, mais il faut surtout extrapoler des résultats à partir de cet échantillon. Et pour ça, les instituts de sondage ont souvent recours aux résultats des élections précédentes. Or, bah Macron, dans les élections précédentes, bah, il n'existait pas. Alors, sur quelle base est-ce qu'on lui extrapole des résultats? Est-ce que c'est sur la base de l'électorat Bayrou, celui de Juppé, celui des socialistes les plus timides? On ne sait pas trop. Mystère, mystère. Explication numéro 3. Les macronistes pensent que Fillon étant descendu aux enfers, ça fait un boulevard pour le Big Boss. On dit toujours, oui, bah, les autres candidats se cassent la gueule, ils se cassent la gueule, c'est pour ça que Macron s'en sort. C'est faux. Macron a de la place parce que Fillon s'est cassé la gueule. Peut-être qu'il a trouvé la place suffisante pour qu'on parle de lui à toutes les sauces. À toutes fins utiles, rappelons que les journaux qui le classent à gauche sont les mêmes que ceux qui disent qu'il peut ratisser l'électorat de la droite modérée. Mais il va être l'heure de refermer ce billet. Je conclurai avec ceci. Macron, ça ne marche pas. On dit que ça marche, ce qui est très différent. En fait, rien ne garantit que mon camarade Sylvestre et tous les autres Sylvestres d'En Marche ont fait le bon pari. Rien ne dit que le soufflet Macron va prendre, notamment parce que les résultats des sondages sont bons pour lui, et certes, je crois au pouvoir performatif des sondages, mais ces sondages ne sont pas fiables, je rappelle, on ne sait pas comment les réponses des interrogés sont extrapolées. Et vu le nombre de rebondissements depuis le début de cette campagne présidentielle, moi j'ai surtout envie de dire et de croire, rira bien qui rira le dernier.
Eh bien, j'espère qu'on va continuer à rire avec toi, Marie, et je te souhaite une très longue carrière dans Tous Politiques.
Oui, tu essaies de me draguer, Mathias.
C'est ça, je fais mon Emmanuel Macron et je ratisse très large.
Mais n'oublie pas de rester au journal radiophonique amplifié Guerre des Titans sur Transistor.
Bon, sans plus tarder, je passe maintenant à l'humeur de Pierre, qui lui est un très grand habitué de Tous Politiques.
D'Emmanuel Macron.
Oh, ce sont des choses qui ne se disent pas, voyons.
Non, pas en famille, pas en famille. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Rémi. Lapsus, bonsoir Mathias.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Moi aussi.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Eh bien, bonsoir Pierre, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Bon, un peu de sérieux, Pierre, reprends tes esprits et quelle est ton humeur du jour?
Eh bien, je vais vous parler de deux sujets apparemment immiscibles comme dans une vinaigrette, les femmes et la politique. Et comme vous le savez tous, ça y est, la liste officielle des candidats à la présidence de notre si belle République est tombée. Et que vois-je? Pas moins de 2 femmes. 2 femmes sur 11 candidats affichés. Et dans ces femmes, bravo la diversité politique. On doit choisir entre l'extrême gauche ou l'extrême droite. Enfin après, vous savez, si les gens ne voteront pas Fillon, ce n'est pas à cause de François, mais de Pénélope. Et puis si on décide de ne pas voter Macron, ce ne sera pas pour lui, mais à cause des longues dents de sa femme déjà sexagénaire. Non mais faut pas déconner quoi, depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui font la politique, n'est-ce pas? Que serait Néron sans Agrippa? Que serait Troie sans Hélène? La France sans Jeanne d'Arc, la Grande-Bretagne sans Marie, Elisabeth, Victoria, Re-Elisabeth et Margaret. Que serait la Roumanie sans Madame Ceausescu, l'Allemagne sans Merkel? Je vous le demande bien. Alors oui, voilà, c'est pas cool une liste de candidats pour la plus haute fonction de la République avec que 2 femmes. En plus, la République, rien que ça, c'est féminin. Et qu'est-ce que ça veut dire? La chose publique. Il y a bien qu'une société patriarcale...
Attention.
Il y a bien qu'une société patriarcale qui met au féminin quelque chose de public, comme une entreprise, une subvention, une perte sèche sur le budget. Et qu'a-t-on de l'autre côté? Un parlement, un détournement d'argent, un travail fictif, un fils de pute, pardon, un député. J'en suis dépité. Alors, qu'avons-nous à fournir au grand panthéon de la vaine gloire politique côté féminin? Eh ben, c'est pas du joli, hein. D'un côté, une tête blonde qui s'imagine en rose bleu. OGM donc, sans les piquants parce que ça fait saigner et que le sang c'est rouge, donc faut pas se salir avec cette saloperie bolchevique. De l'autre côté, on a cette chère Nathalie Arthaud dont la campagne passera aussi inaperçue que la candidature de La Salle. Oui oui, La Salle, pas la salle de concours que nous connaissons tous si bien ici, ni la salle de sport qu'il me faudrait pénétrer à nouveau un de ces quatre. Bon. Au moins, avec Arthaud, on est sûr de ne pas avoir de femme au pouvoir, ça ferait tâche. Mais j'ai peur que si on se retrouve avec la Charlton Heston du lobby militaire et du fascisme en boîte soldée par paquet de 40 parce que la date de péremption est dépassée, ça fasse comme à chaque fois qu'on met une femme à un poste clé juste pour dégoûter les gens de cette fonction. Regardez ce que Catherine Ashton a fait du commissariat européen aux affaires étrangères. Tiens, vous savez d'ailleurs pourquoi le Parlement européen est plus proche de la parité que la plupart des parlements nationaux, avec 37% de femmes sous Martin Schulz ? Pour la simple et unique raison qu'on envoie les femmes dans les institutions dont on s'en fout, celles qui ne sont pas du tout prestigieuses. Et croyez-moi, ça me fait très mal de dire ça du Parlement européen. Pourtant, à l'Union européenne, on a quand même eu deux femmes à la présidence du Parlement européen. Et la commissaire la plus cool du monde au poste de haut représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, de politique, de sécurité. Bon, faut dire que Federica Mogherini rattrape de loin le palmarès de Catherine Ashton de par son activisme européen, son habileté diplomatique, en bref, ses compétences véritables. C'est vrai que niveau représentation des femmes, c'est pas gagné encore pour l'Union européenne, mais c'est plutôt bien commencé, on devrait dire, niveau femmes à des postes importants, par exemple avec la moitié des commissions parlementaires présidées par des femmes. Mais bon, l'Union européenne a encore beaucoup à apprendre en matière de parité, ça c'est sûr. C'est encore un gringalet qui ne fait pas le poids face à la majesté de la République française qui a inventé la discrimination positive pour renforcer ces êtres si fragiles qui ont besoin d'un coup de main de la part des gentilshommes qui n'hésitent pas à respecter la parité, mais bien sûr avec les femmes en deuxième position maximum sur la liste ou pour combler les 10 candidatures qui manquent en fin de liste. Ou peut-être qu'elles ont simplement besoin qu'on leur foute la paix en leur procurant une égalité des chances. Je sais pas, hein, moi je dis ça, je dis rien, je ne voudrais pas m'attirer les foudres de la population féminine de cette radio en proposant des choses trop osées. Revenons donc chez nous et remontons un peu dans le temps, avant que je dise une bêtise. À quand remonte la dernière femme importante pour la politique française ? Eh bien, je pense qu'on pourrait dire Ségolène Royal, arrivée au second tour de la présidentielle de 2007. Rendez-vous compte, une femme qui arrive si près de ce poste si important pour se le faire voler par un magouilleur de première surqualifié dans la filouterie et le détournement. On se croirait sur le marché du travail. C'est vrai quoi ? On aurait fait quoi si elle avait été élue ? J'imagine déjà ses ministres organiser des pyjamas partis à l'Élysée, les pays méchants qui subissent le fameux silent treatment de la part de notre présidente. Et bien sûr... tous les mois, pendant quelques jours, la France entrerait en guerre pour des broutilles, avant de retrouver son calme habituel. Moi, je comprends les électeurs français. C'est pas possible une gonzesse à la tête de notre pays. Franchement, c'est encore plus difficile que de conduire une voiture ou faire un créneau. Ah là là. En vrai, 2007, c'était la belle époque, où le troisième parti en France était le Modem, qui se faisait son plus beau score historique. C'est la fin de Chirac, ce sacré womanizer, qui se proclamait des 3 minutes douche comprise, à croire que la potence politique vous procure une impotence prolifique. C'est vrai, c'est vrai. La politique, c'est un milieu d'hommes, une affaire d'hommes, un milieu plein à craquer de muscles peints, d'auto-bronzants et de belles phrases sans lendemain prononcées avec conviction pour séduire la chaste république qu'est la nôtre. Sarkozy, c'est ce relou qui vous envoie des cartes postales parce que vous avez eu la gentillesse de coucher avec lui et de lui fournir un coin bouffe gratos chez vous pendant les vacances. Hollande, c'est un peu le type stable avec qui vous vous êtes mise pour vous remettre du relou précédent qui revient toujours à la charge même si vous êtes prise. Bayrou, ah Bayrou, l'éternel romantique qui est toujours là pour vous. Un ami si cher, si fidèle. Mais depuis que vous lui avez donné un faux espoir, il ne vous lâche pas et ça devient relou. Marine, c'est cette pote lesbienne qui essaye de vous convaincre d'essayer. Et après tout, pourquoi pas ? Juste pas avec elle, qui est bien trop insistante et qui a toujours pué sévèrement malgré ses tonnes de parfums premier prix. Mélenchon, ce rebelle qui a la langue bien pendue que vous aimez bien avoir avec vous pour cracher sur les relous quand il y a besoin et critiquer vos ex une fois qu'ils sont partis. Macron, enfin le jouvenceau que vous avez dépucelé et depuis il ne se sent plus et tous ses potes sont là à lui dire de foncer, même devant vous. Ah, elle est belle la France de l'amour, de la romance, surtout en politique, hein. Mais notre pays n'est ni un plan cul, ni un coup d'un soir, messieurs. Arrêtez de vous languir sur les formes de sa constitution, sur ses institutions pulpeuses ou ses indemnités lascives. Non mais franchement, stop quoi, les Britanniques ont eu plus de femmes premières ministres que nous, c'est quoi ce bordel ? Et encore, on en a eu une, et c'était pour à peine un an. 10 mois et 18 jours, comme nous le rappelle péniblement Wikipédia. contre pas moins de 11 ans, 6 mois et 24 jours pour cette si chère Thatcher.
Il s'en serait peut-être passé, non?
Et Merkel, pareil, une onzaine d'années. Mon dernier portable a duré plus longtemps qu'Edith Cresson à Matignon. En 90, la 5ème République avait 32 ans et était déjà une vieille réac du 7ème arrondissement de Paris. Imaginez ce que ce sera en mai quand elle aura joyeusement 59 ans. Elle se mettra à grommeler dans son coin que c'est dans les cuisines qu'on trouve les meilleures femmes, que l'octroi du droit de vote c'est une belle invention de ces gauchos cosmopolites qui veulent ruiner la France. Excusez-moi, mais je crois que dans ce cas, on se trompe un peu de France. Non mais comment on est en train de l'éduquer, notre petite République en pleine crise d'ado? On n'arrive même pas à avoir des first ladies vraiment classe. Faut dire que nos présidents ont toujours été à des années-lumière d'Obama ou de Trudeau. Quand les US s'extasient devant Michelle Obama, nous on s'extasie devant Jackie et Michelle. Heureusement, Melania Trump nous sauve la mise en se sacrifiant au bras d'un misogyne réactionnaire président du monde libre. Bon, c'est vrai qu'il favorise l'emploi des femmes, hein. Enfin, de sa fille, quoi. Mais c'est un bon début. Et puis, il ne faut pas s'attendre à des merveilles pour un couple présidentiel. C'est fini. Il faut arrêter de mater avidement Madame Kennedy et Madame Obama. Jackie et Michel, pour ceux qui n'avaient pas compris précédemment. Enfin bref, on est bien servi niveau femme d'homme d'État. Après, faut dire que ce que nous montrent les séries de ces questions de genre et de famille dans l'univers politique, bah c'est pas très glorieux, hein. Vous avez le choix entre deux modèles. La femme indépendante est efficace comme une machine qui semble effacer ses sentiments, ou la femme indépendante est morale qui n'arrive pas à gérer vie de la nation et vie familiale. Moi, j'en ai marre de ça. Franchement, on le voit toujours. À quand une série avec des femmes qui détournent de l'argent, qui emploient leur mari ou gardent du corps comme le faux attaché parlementaire? Moi, je veux des séries avec des femmes à la langue de bois qui servent à autre chose qu'à passer sous un bureau. Des femmes qui cumulent leur mandat et qui n'ont pas peur de porter les valeurs profondes de la culture chrétienne, de la France profonde. Une femme qui n'a pas peur de trahir son père Non. En fait, montrez-moi juste une femme normale, hein, qui fait de la politique. C'est trop demandé.
Merci Pierre, et ça me rappelle ces mots d'Edith Cresson. On aura atteint l'égalité entre les hommes et les femmes quand on mettra une femme aussi incompétente qu'un homme au même poste. Et sans attendre, je souligne le grand retour de Maëlys dans Tous Politiques, qui n'était pas là la semaine dernière.
In extremis. Je suis là.
Oui, et tu nous avais beaucoup manqué la semaine dernière, et donc c'est l'heure de la sociologie.
Même il y a deux semaines d'ailleurs.
Oui, merci le troll pour le rappel, calendrier.
Journal radiophonique amplifié la semaine dernière.
Ah oui, en effet. Donc c'est maintenant l'heure de la sociologie sur Tous Politiques. Bonsoir Maëlys.
Bonjour Mathias.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris!
Bonjour Mathias. Aujourd'hui, un peu de sociologie politique et de sociologie des médias dans ce monde de brut. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'hier soir, 5 des 11 candidats se sont affrontés dans un des exercices les plus courus de la campagne présidentielle, j'ai nommé le débat télévisé. Au programme, différentes questions sur des sujets de société, d'économie, de la politique internationale, avec des argumentaires des candidats plus ou moins développés, tendant d'être convaincants, logiques, mais campant tous une position bien précise, celle de leur parti politique respectif. Le tout sous les remarques judicieuses et perspicaces de Gilles Boulot et de Anne-Claire Coudray, présentateur.
Oui, oui, bien sûr.
Bon alors, dans l'histoire, on a trois larrons, les candidats, le public et le média en question. J'ai nommé ici une chaîne de télévision qui a coutume de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, TF1. Mais bon, Mathias, tu t'es toujours demandé, lors de tes insomnies les nuits de pleine lune, je suis sûre, quels sont les mécanismes sous-jacents derrière ce débat avec ces candidats qui tentent de convaincre et d'affirmer leur position clairement pour se distinguer de leurs adversaires, le tout dans le format préétabli de la chaîne qui, au demeurant, n'a pas jugé nécessaire d'inviter les 6 autres candidats.
Tu retranscris exactement ma pensée d'hier soir à 3h35.
Exactement. Mais qui choisit les sujets abordés? De mettre par exemple l'accent sur la laïcité plutôt que sur le réchauffement climatique, sur le chômage plutôt que sur la moralisation de la vie politique en France par exemple? Comment cherche-t-on à convaincre, persuader, voire manipuler le public des lecteurs? Bref, comment marche la communication politique par les médias et quels sont ses effets?
Maëlys vous révèle tout.
Voilà. C'est une question assez ancienne dans les sciences sociales. Ça fait à peu près 45 ans que ce questionnement est né. Et ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et cela s'est surtout développé avec la sociologie américaine, dont les médias et les sondages sont un acteur incontournable depuis très très longtemps. Bref, pour vous ce soir public, en direct sur Transistor, les sciences sociales ont forgé de nombreux concepts et petits outils théoriques pour comprendre comment ça marche tout ça. Donc, l'une des études introductives majeures de ce genre de considération, c'est l'étude des Américains Shaw et McCombs en 1972, The Agenda Setting Function of Mass Media, qui détermine la première, en fait, le concept de mise sur agenda d'un problème. Donc, ça, c'est un concept de sociologie politique. Ou agenda setting, en fait, pour ceux qui n'en ont rien à foutre de la clause Molière. Donc, dans cette étude, ils souhaitent mesurer la relation entre la couverture de l'élection présidentielle américaine de 68, dans les actualités et les sujets perçus comme importants par le public. Donc, en fait, ils observent une corrélation quasi parfaite entre les thèmes considérés comme importants par une centaine d'électeurs indécis, interrogés par questionnaire, et ceux ressortant d'une analyse en fait, de contenu de différents médias de masse. Donc Matt Combs et Shaw en fait, concluent que la focalisation de la presse sur certains thèmes amène son public à les considérer comme plus importants, plus saillants que d'autres, en fait, et met sur l'agenda en fait, un certain nombre de problèmes à résoudre. Donc les médias n'imposent pas vraiment ce que l'on peut penser, mais ils vont structurer ce qui va être important pour les individus en les évoquant fréquemment et en ceinturant l'espace médiatique. Bref, ils vont déterminer l'attention sélective que l'on va porter sur tel ou tel problème. Bon, si la causalité n'est pas encore vraiment prouvée entre discours médiatique et opinion individuelle, en effet, est-ce que c'est la télé qui fait l'opinion publique ou est-ce qu'elle ne fait que la refléter ? Et si cette causalité peut aussi être double, cette étude a ouvert la porte à tout un champ d'interrogation disciplinaire. Est-ce que vous me suivez pour le moment ?
Tout à fait, comme d'habitude.
Avec la mise sur agenda. Donc dans la continuité,
même Rémi suit là-bas.
Oui, tout à fait.
Dans la continuité de tout ça, en fait, je vais vous présenter ce qu'on appelle la théorie du cadrage, donc le framing, si vous voulez, vous la pétez en VO. Donc c'est une théorie qui a été travaillée en économie comme en sociologie, et donc l'idée sous-jacente en fait, de cette théorie, c'est que notre perception de la réalité est déterminée par des cadres préétablis que nous ne décidons pas nécessairement. En fait. Donc en gros, on entrevoit toujours la réalité à travers un cadre, avec des éléments qui sont dans le champ et des éléments qui sont hors champ. Donc plus concrètement, selon la manière dont on formule le problème, ça ne va pas produire les mêmes réactions. En fait, voilà. Donc rien de nouveau sous le soleil, en fait, et l'exemple typique d'études dans ce champ disciplinaire, c'est le travail de Kahneman, prix Nobel de QV 2009 d'économie, et Tversky, en 1981, qui ont développé en fait, la notion de cadrage en économie et ont modestement donné naissance à toute une sous-discipline, l'économie comportementale, voilà, qui a introduit les méthodes des sciences cognitives en économie. Donc en fait, Kahneman et Tversky, ils font une expérience sur deux groupes d'étudiants qui ont le choix entre deux options. Donc en fait, au premier groupe, ils vont poser le problème numéro 1. On a une épidémie qui touche 600 personnes et on demande aux étudiants de choisir entre deux programmes sanitaires. Donc réponse A, programme A en fait, 200 personnes sont sauvées. Programme B, c'est un programme dont l'issue est incertaine, mais dont la probabilité de résultat, c'est que un tiers des personnes soient sauvées et que deux tiers des personnes ne soient pas sauvées. Donc à votre avis, ils choisissent quoi comme programme ?
Attends, t'as bien dit qu'il y avait 600 personnes.
Ouais, 600.
Oui, donc en fait, ça revient
mais du
même.
Coup, un tiers, c'est 200 personnes.
Ouais, mais donc, c'est une probabilité, donc c'est plus risqué, le deuxième programme.
Mm-hmm. Oui, donc on choisit 200 personnes parce qu'on a un chiffre dur.
200 personnes sûres ou à peu près un tiers personne de probabilité et deux tiers personnes qui ne seront pas sauvées.
Ah, du coup, autant prendre le programme qui est sûr, non ? Je sais pas.
Oui, le programme qui est sûr avec un chiffre tangible.
Donc vous choisissez le A.
Oui. Ouais.
D'accord. Mais alors, la plupart des étudiants choisissent le A. C'est une expérience. Ouais. La plupart des gens choisissent le A.
Mais
il y a un mais. Deuxième programme, on pose le problème suivant numéro 2. Donc, on a une épidémie qui touche 600 personnes. C'est la même chose. Et on doit choisir entre deux programmes sanitaires. Donc, le premier programme, c'est 400 personnes qui vont mourir. Et le deuxième programme, c'est un tiers des personnes qui survivent et deux tiers des personnes qui meurent. Donc, à votre avis, vous choisissez quoi ?
Mais encore une fois, c'est pareil, non ?
Oui, mais c'est l'inverse. En gros, on préfère dire qu'on sauve un tiers plutôt que de faire mourir 400 personnes.
Voilà, donc vous choisissez quoi ?
Le B.
Le B, voilà. Donc les gens choisissent le B.
D'accord, comment c'est formulé ?
Et donc en bref, la conclusion de l'étude, c'est que selon le fait qu'on met l'accent sur les morts ou sur les rescapés, les individus vont changer d'attitude. Bon, alors qu'au foncièrement, les quatre programmes sont équivalents. Donc en langage économique, c'est dire que quand on pense au gain, on est averse au risque. Et quand on pense aux pertes, en fait, on va être moins averse au risque, on va plus prendre de risques. Donc revenons à nos moutons, ça vous donne une idée en fait, des effets de cadrage et de la manière dont on pose un problème. Ça peut vraiment différencier les questions. À nos 5 moutons d'hier soir sur Antenne 1. Donc en sciences politiques, c'est Ganson et Modigliani, et non pas Amedeo, en 1989, qui ont repris la théorie de cadrage. Donc eux, ils ont essayé de comprendre comment les médias participent à la construction des problèmes publics à partir de la thématique du nucléaire aux États-Unis. Donc à partir d'un problème, ils vont forger les concepts de cadrage en sciences politiques et de panoplie interprétative, donc Interpretative Packages pour les relous qui veulent crâner en anglais. Donc selon eux, le discours médiatique peut être abordé comme un ensemble de cadres. Un cadre, c'est quoi ? C'est un schéma d'appréhension et d'évaluation que les médias élaborent pour mettre en scène... un cadre, c'est quoi ? C'est un schéma d'appréhension et d'évaluation que les médias vont élaborer en fait pour mettre en scène l'information et les événements qui surviennent aux yeux des spectateurs. Donc ici, chez les auteurs, c'est tout ce qui a trait à l'énergie nucléaire. Donc plus précisément, en fait, chaque cadre constitué par les médias va être constitué d'une panoplie interprétative qui va cadrer et contraindre le spectateur, ou du moins l'encourager, à adopter une certaine logique d'évaluation. Donc concrètement, une panoplie, c'est quoi ? C'est des exemples, des métaphores, des slogans, des catchphrases qui vont entourer logiquement un thème ou un événement en lui attribuant certaines causes, certaines explications, certaines conséquences, ou qui vont l'affubler de revendications morales. Donc vous voulez des exemples, je suis sûre, pour concrétiser un peu
oui,
tout ça ?
Oui, bien sûr,
mais... Livre-nous tes exemples. Donc par exemple, sur le thème du nucléaire, une panoplie interprétative, ça va être « le nucléaire, c'est le progrès ». En termes d'éléments de discours, le nucléaire, c'est une source d'indépendance énergétique, ou le nucléaire, c'est un pacte avec le diable. Voilà, donc ça, c'est du prêt-à-penser, si vous voulez, des panoplies interprétatives que les médias vont relayer. Donc en fait, les auteurs vont remarquer que, notamment eux, c'est après la catastrophe de Three Mile Island en 79 que ça change, suivant le contexte médiatique. Donc en gros, les cadres interprétatifs sont sciemment produits par les journalistes et par les discours médiatiques pour influencer l'opinion. Donc dans le cadre de la campagne présidentielle, ils peuvent être produits par les candidats, la télévision, par les présentateurs ou la chaîne. Donc par exemple, si je vous donne le thème immigration, vous me sortez quoi comme panoplie interprétative ?
Celle de droite ou celle de gauche ?
La misère du monde.
Ah oui, la France ne peut pas...
Voilà, c'est ça, par exemple. On est envahi, c'est grand oui. Remplacement. Ça, c'est une autre panoplie interprétative.
Oui, c'était Sarkozy qui parlait de fuite d'eau.
Voilà, au contraire, on peut avoir, c'est le cosmopolitisme, l'ouverture, la modernité, etc. Donc voilà, donc
citoyen
ça c'est...
du monde.
Vous voyez bien que les candidats vont développer des panoplies interprétatives qui vont influencer les électeurs et que Marine Le Pen ne va pas dire vive le cosmopolitisme, mais plutôt...
Qu'Henri de Lesquin, voilà, encore moins. Possible.
Donc au cours d'une campagne électorale, on a certains thèmes et avec certains cadrages qui vont arriver. J'aimerais encore combien de temps là ?
Oh vas-y Maëlys, tu as tout le temps que tu veux.
Avec certains cadrages...
J'ai toute la nuit Maëlys.
Toute la nuit, pour parler de sociologie politique.
Toute la nuit.
Qui vont apparaître, donc en fait, du fait de l'activité consciente des journalistes et des élites politiques, économiques, etc. Et en fait, ce sont ces cadrages qui, très souvent, vont conditionner la tenue des débats et vont influer la façon dont la question va être construite et les réponses que ça va présupposer. Donc l'analyse des cadrages a par la suite été raffinée par d'autres chercheurs en sciences politiques au sein d'expériences comportementales. Et oui, la manipulation peut être très subtile, comme on va le voir tout de suite. Donc en 90, le chercheur Shanto Yangar a distingué par exemple les cadrages de type épisodique et les cadrages de type thématique, donc Kesako. Un cadrage épisodique, c'est en fait une manière de traiter un événement spécifique ou un incident ponctuel, en fait, sous la manière de manière vraiment informationnelle, etc., et très, très précis, très spécifique. Et un cadrage thématique, ça va être une manière de traiter une question plus large de société, etc., en ne se focalisant pas sur le spécifique et sur le concret. Donc en fait, suivant le cadrage utilisé pour traiter un même thème, le spectateur n'aura pas la même évaluation du sujet. Donc en fait, c'est une expérience que fait Yangar en 1990. En fait, il va tester l'objet pauvreté avec deux types de cadrage sur les spectateurs. Donc dans le premier reportage, en fait, on a un cadrage épisodique avec un reportage qui va relater les problèmes financiers d'un ouvrier de l'industrie automobile au chômage. Et dans le deuxième, on va avoir un cadrage thématique avec un reportage qui va plutôt porter sur le taux de chômage, le taux de pauvreté, avec des grandeurs macro-sociologiques et macro-économiques en France. Donc le résultat de son étude, c'est que au final, les spectateurs, enfin donc du coup il a pris un petit panel de spectateurs, le cadrage épisodique de la pauvreté, donc celui où on se focalise sur un ouvrier, va amener davantage le public à voir la pauvreté en termes de responsabilité individuelle, sur le mode les pauvres sont paresseux, quand le cadrage thématique en fait va entraîner de la part du public une perception de la société comme responsable du problème de la pauvreté. Donc voilà en fait comment, en choisissant un mode de cadrage, on peut influer directement sur le public, aussi facilement et subtilement que subtilement impressionnable. Donc en conclusion, je tenais à préciser que je ne suis pas du tout en train de crier au grand complot judéo-maçonnique médiatique, et que l'action des médias ne s'impose pas mécaniquement sur les spectateurs passifs que nous sommes. Parce que oui, aussi, les spectateurs ont leur mot à dire et mettent le grain de sel dans l'histoire. Donc ça, mais ça, ce sera sûrement l'objet d'une prochaine chronique dans Tous Politiques de ma part.
Avec plaisir.
Voilà. S'intéresser au ressort de la communication politique est en tout cas vraiment salvateur en cette période mouvementée, et j'espère que vous ferez bon usage de la mise sur agenda, des effets de cadrage et des panoplies interprétatives lorsque vous analyserez les prochains débats, sans vous laisser jouer par les beaux mots de nos politiciens.
Et c'était Maëlys qui décortiquait le temps de cerveau disponible fourni par Antenne 1. Et tout de suite, comme chaque semaine, il se trouve que j'ai quelque chose à vous dire.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Hier, votre dévoué serviteur a passé plus de 3 heures devant sa télévision. Enfin, en fait, comme je suis un bobo bio, je n'ai pas de télévision et c'était devant mon ordinateur.
Un Mac.
Oui, voilà, en plus. 3 heures, disais-je, pour regarder le fameux débat d'avant premier tour qui réunissait les 5 principaux candidats. Enfin, ceux recueillant plus de 10% des intentions de vote au premier tour, les autres pouvant gentiment aller se rhabiller. Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, le prochain président ou la prochaine présidente de la République se cache dans ces 5 noms. Je ne sais pas vous, mais il me semble que le prochain président s'est quand même très bien caché, tellement bien, que je ne sais même pas si j'arriverai à le retrouver. Bref, je pourrais vous détailler tout ce qui a été dit pendant ces 3 heures de TF1, publicité en prime, de l'économie à la santé, en passant par la sécurité et bien sûr la laïcité et le terrorisme, parce que on est quand même chez TF1 les gars. Je pourrais aussi vous détailler toutes les propositions qui ont été faites, les passes d'armes, les affrontements projet contre projet, mais honnêtement, est-ce que c'est très intéressant? Est-ce qu'on a encore envie de ressasser toujours les mêmes discours, les mêmes programmes, les mêmes rengaines, les mêmes catchphrases, comme nous parlait Maëlys? Non. Je me suis mis à réaliser à la place une petite fiction. Et si le débat était un repas de famille? Avouez, la présidentielle de 2017 comme un film français réalisé par Desplechin, ça a quand même un peu plus de gueule.
Oula.
Un soir d'été dans la maison familiale. Marine fume une cigarette sur la terrasse, le regard plongé dans le vague pendant que François est au téléphone avec sa femme, restée dans la Sarthe pour s'occuper du domaine et des enfants. La conversation est animée, François parle d'argent. « Tu as bien eu les sous du petit dernier, Pénélope » s'enquiert-il. Une pause. Il a l'air rassuré. À l'étage, les deux adolescents se chamaillent. Benoît et Emmanuel se disputent tous deux pour savoir qui aura la garde de Philae, la chienne de leur père récemment décédé. « C'est moi qui étais le plus proche de papa, » dit Benoît. « Alors pourquoi as-tu quitté la maison ?» lui demande Emmanuel. « Et alors, toi aussi tu es parti ?» C'est vrai, Emmanuel est parti. Mais c'était pour mieux se libérer de l'emprise d'un père qui n'avait jamais vraiment su montrer son amour pour ses enfants. Maintenant, François Hollande n'est plus là et toute sa famille est réunie pour savoir qui aura l'héritage. L'oncle François et la tante Marine veulent tous les deux rafler la mise, car ils ont des soucis d'argent, et aimeraient bien se mettre à l'abri pendant un certain temps. Benoît et Emmanuel, c'est différent. Benoît, l'aîné de la fratrie, se sent lésé face à son plus jeune frère Emmanuel, qui a toujours été le favori de son père. Mais c'est à ce moment que rentre le deuxième oncle, Jean-Luc, qui avait coupé les ponts avec François Hollande il y a déjà fort longtemps. Il parle fort. Lui, l'héritage, il s'en fout, il veut juste voir toute cette famille pourrie de l'intérieur se décomposer. Jean-Luc, il sait bien ce que manigancent l'oncle François et la tante Marine. Et lui, il ne mange pas de ce pain-là.
Non mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, Monsieur Fillon et Madame Le Pen.
Franchement, ça pourrait venir.
Les 3 autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Alors s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même sac.
Benoît et Emmanuel le regardent avec des yeux écarquillés, ce grand bonhomme qui parle fort. Et ça leur donne des idées. Ils vont se gonfler à bloc et montrer qu'ils existent.
Avec Monsieur Hamon, c'est 32 heures, le revenu universel, dans un pays qui a 2200 milliards de dettes. Enfin, bon, voilà.
Nous, c'est 500 000 fonctionnaires en moins. Vous êtes très fort en soustraction.
On rêve et chacun sait bien que ces promesses-là ne peuvent pas être tenues.
À côté, la tante Marine, elle veut montrer qu'il ne faut pas lui marcher sur les pieds. Elle sait qu'il y a de fortes chances pour qu'elle puisse gagner tout l'héritage. Mais il reste le petit Emmanuel qui pourrait bien lui couper l'herbe sous le pied. Alors elle l'attaque, elle fustive le jeune homme bien habillé. Mais Emmanuel sait bien qu'il ne manquera pas sa chance, alors il ne se laisse pas faire.
Et allez devant la justice de notre pays, et dans ces cas-là, la justice fera son office.
Dans un coin de la table, l'oncle François se confond avec le papier peint. Il ne dit rien, regarde les autres s'arracher les cheveux, il grommelle de temps en temps un petit « non » ou un petit « moi aussi ». Et quand on lui demande de s'exprimer, il ressort ses vieilles rengaines, déroule ses fiches apprises par cœur pour surtout ne pas faire d'un faux pas et s'attirer les foudres des convives, qui pourraient révéler des secrets bien compromettants.
Je confierai au vice-président du Conseil d'État, au premier président de la Cour des comptes et au procureur près de la Cour de cassation le soin de faire des propositions sur la transparence. Alors, j'ai pu commettre des erreurs, j'ai quelques défauts, qui n'en a pas, mais j'ai l'expérience.
Mais oui, tonton, personne n'est dupe. C'était ça hier soir, un repas de famille morose, des rancœurs, bref, c'est comme ça, ces gens-là.
Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On trie. Et puis, il y a les autres. La mère, qui ne dit rien. Et n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide, et ça fait des grands cris. Et ça fait des grands cris.
Et pour terminer cette émission, c'est l'heure du billet de Rémi. Bonsoir Rémi, et comment vas-tu ?
Alors bonsoir Mathias, bonsoir à toutes et à tous. Je vais très très bien, figure-toi. Alors je n'ai pas été aussi fou que toi, hein. Je n'ai quand même pas regardé le débat d'hier soir. Non, mais malgré tout, je voudrais commencer avec une petite recension télévisuelle liminaire, moi aussi. Car hier soir, oui, il faut le dire, toute la France était pendue au baffle barbiturique de sa télévision pour voir l'histoire en marche, les grands hommes tenter de séduire les masses, posant leur regard magnanime sur leur beau front empesé de sueur laborieuse. Oui, hier soir, il y avait Touche pas à mon poste. Avec le papier toilette de l'audiovisuel français, j'ai nommé Cyril Hanouna, qui recevait l'un des bouts de salade mal digérés de cette grande chure présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez plutôt.
Quand on a un peu d'amour propre, on porte pas des vestes offertes par les autres.
Il vaut combien votre costume aujourd'hui?
Bah oui, moi j'ai pas 300 euros, 400 euros. Vous pouvez vérifier.
Eh ben, c'est quoi? Je le reprends tout de suite à 150.
Non mais quoi? Enfin, quand Nadine Morano a compris la blague à 5h du matin, elle a tellement ri que ses poumons sont tombés dans l'intestin avec lequel elle réfléchit. C'est hilarant, c'est fascinant. Et je ne résiste pas au plaisir de vous en faire écouter juste un peu plus.
Rassera ou Narcam? Emmanuel Macron.
Rassera parce qu'il est très faux cul.
Ah d'accord. C'est la meilleure. Attends, ça.
Je vous dis ce que je pense.
Vous avez pas compris? Non, moi non plus. Vous irez voir. Enfin, par contre, vous avez bien entendu, non?
C'est la meilleure.
Vous savez, juste là.
C'est la meilleure.
On dirait une hyène, on dirait les hyènes dans le Roi Lion.
Et ça tombe bien, oui, que Nicolas Dupont-Aignan parle d'Emmanuel Macron, parce que figurez-vous, c'est le sujet de ma chronique, même si ça fait déjà une minute que je parle. Bon, allez, jingle.
Le billet de Rémi dans Touche Politique.
Le billet de Rémi dans Touche Politique sur Transistor.
Chers auditeurs, si nous sommes réunis aujourd'hui en ces lieux, c'est pour recueillir en notre âme les délices de la bonne nouvelle, car oui, chers auditeurs, notre sauveur est venu. Il est jeune et beau, comme un anus artificiel dans une collection de hanches en plastique. Il porte un beau costume qu'il a acheté en travaillant au lieu de se le faire offrir par ses potes. Et il en a même un de rechange pour les jours où il met un petit peu de sueur dessus. Ça fait un peu prolo. Il sait tirer les leçons de la grande histoire catholique et se met tous les traîtres de son côté, à commencer par Judas de Rugy. Il n'est ni de la droite avariée des moisissures de Bénissier qui n'ont pas plus vu les islamo-gauchistes qu'ils vomissent ou les pédales qu'ils pourchassent que leur dignité de fin de race partie dans le bidet avec leurs idéaux de jeunesse, ni de la gauche endormie dans son lit de rose fané dans le jus de l'incontinence socialiste. Non, ni de gauche ni de droite, grand amateur de marche à pied, car il a compris qu'à vélo, à trop rester, on s'entre, on s'assoit sur ses bourses, et que dans ses autocars à pauvres, eh ben, y a plein de pauvres. Il sait rassembler le peuple par centaines de milliers lorsqu'il tente d'enterrer sous l'humus fraîchement décomposé du Parti Socialiste les droits des travailleurs. Bref, il sait se mettre en marche et parler à tout le monde pour porter cette bonne nouvelle partout en France, parce que c'est notre projet. Amen. Non, excusez-moi, je voudrais vraiment m'excuser auprès de l'Église parce que la comparaison n'est pas super charitable. Enfin, je veux dire, un prêtre caresse tendrement la vulve à peine humide, fraîche et rose comme un fruit appétissant, tendre, pur, satiné, à la fragrance délicate et aux promesses doucement épicées d'une espèce de cochonne de 6 ans qui va au caté rien que pour se faire péter la rondelle. On en parle partout. Un type arrive et astique 45 millions de votants à grands coups de chaussures de marche. Personne dit rien. Je voudrais ici citer ce grand philosophe qui est Mathias Soubise, qui disait, pour résumer cette élection, « Voulez-vous trois doigts dans les fesses ou un séjour prolongé à la Fistinière ?» Bien, je te réponds tout de suite, Mathias, et en direct devant nos auditeurs, peu importe, la tour Pardieu entière y rentrerait, bien au centre elle aussi, entre nos deux petites fesses rebondies gonflées à la graisse McDonald's et à la soupe Pujadas. Non, même s'il y a encore des résistants qui contractent leur sphincter sur la première matraque venue, la France n'est vraiment plus qu'une rangée de culs qui demande à être ouvert toujours plus grand pour avoir plus de bouse à manger, pardon. Oula, on recommence. Oui, une rangée de culs qui demande à être ouverte toujours plus grande pour générer toujours plus de bouse à nous faire manger. Notre père qui est dans ton bureau chez Rothschild offre-nous aujourd'hui notre étron quotidien, si possible enroulé dans du papier journal pour qu'on le prenne pour de l'information. Voilà ce dont Emmanuel Macron est le candidat de son époque, quelque part. Le candidat sans programme, le candidat qui finit par sortir un programme en 37 points parmi lesquels on trouve côte à côte outre-mer et pauvreté. Comment voulez-vous commenter ça? Le candidat de la libéralisation de tout, de la libéralisation de lui-même, de la libération de la morale. Le candidat des classes moyennes à grosses voitures et à bons sentiments, et puis à PQ triple épaisseur pour essuyer le cul rose des deux gosses roses, ronds, cons, qui iront à la fac et liront longs frais de leur génération. Bref, le candidat de la vulgarité, du crachat lâché d'un jet privé en s'écrasant dans le gobelet Subway où le clodo du coin espérait nous voir laisser quelques pièces pour pouvoir se payer un coup de rouge, une femme à un nouveau chien parce qu'il a mangé le dernier, voire un chalumeau pour faire son devoir de citoyen et se rendre au bureau de vote cramé ce samedi. Symbole de notre déchéance. Le candidat de la vulgarité qui n'a même plus besoin de mentir. Le candidat du mensonge qui n'a plus besoin du mensonge pour être mensonge lui-même, comprendre de l'enculade qui n'a plus besoin de zizi sale pour nous faire mal au derrière. Le candidat qui n'a pas besoin de programme et le dit puisque tout le monde a accepté que ce programme ne serait pas appliqué. Macron c'est du vent, du spectacle, du mépris. Macron c'est la folie. Macron c'est Trump et Wall Street. Macron n'est pas une idée, c'est du néant dans un costume. Et je termine avec un scoop qui nous vient tout droit de Marine Le Pen, écoutez.
Je n'ai jamais vu quelqu'un capable de parler 5 ou 6 minutes de suite sans émettre une seule idée dont on se souvienne.
Il était temps que tu t'en rendes compte, ma grande.
Alors, je ne sais pas si je dois dire merci Rémi.
C'est la meilleure.
Merci Nicolas. Donc c'était un Rémi très en forme, c'était florilège ce soir. Bon, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit.
Très méta.
Très. Non, il y avait un côté flaubertien dans la verve anti bêtise. Voilà, c'est un compliment, au cas où.
C'est gentil.
Même si c'est du 19e, c'est un compliment.
C'est un compliment.
Malheureusement, je crois que la bêtise gagne. Je fais ce que je peux pour la contenir. Mais je suis terriblement seul.
Mais oui,
c'est fini, Saint-Rémy.
Non, je ne crois pas que tu sois tout seul.
Non, non, nous sommes ici à tous politiques pour vous mener sur le droit chemin.
Sur le droit chemin et... Et un chemin qui va peut-être se terminer.
Ni à gauche, ni à droite.
Ni à gauche, ni à droite. Je ne me prononcerai pas sur la question. En tout cas, un chemin qui arrive à son terme, car c'est maintenant la fin de cette émission, que vous pourrez retrouver en podcast sur notre site www.transistor.fr. Et je vous rappelle de ne pas hésiter à liker notre page Facebook Tous Politiques sur Transistor et à suivre aussi toutes nos actualités sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je tiens à remercier tous ceux présents sur le plateau à mes côtés, ainsi que Nicolas à la régie et toute l'équipe de NS Media, sans qui cet enregistrement n'aurait pas pu avoir lieu. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et n'oubliez pas, si la politique n'est pas tout, nous sommes tous politique.
Fais les valises, on rentre à Paris.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Tonton veille sur vous.
Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions.
Au revoir.